Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Jérusalem au temps de Jésus, c'est la série d'émissions que nous vous proposons de suivre pendant ces trois dernières semaines de carême. À l'heure où Jésus va entrer dans sa passion, les lieux sont clairement identifiés par les évangélistes et pas seulement, nous dira notre invité. Je vous propose d'entrer aujourd'hui à Gethsémani. Nous grimperons ensuite ensemble au Mont des Oliviers et nous parcourrons enfin la vallée du Cédron. Frère Dominique Marie Cabaret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain de la province de Toulouse, vous avez vécu 10 ans à Jérusalem, vous avez été chargé du cours de topographie et d'histoire du Proche-Orient ancien à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Vous êtes donc imprégné de tous les lieux dont nous allons parler ce matin et que nous allons parcourir avec vous. Avant de détailler, j'aimerais peut-être vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que la découverte des lieux saints vous a apporté dans votre foi ?
Alors, la découverte des lieux saints, si j'ose dire, c'est une invitation. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'aller en Terre Sainte pour être sauvé, à la différence d'autres religions qui imposent d'aller à un endroit pour être sauvé. Mais c'est comme si on recevait une invitation de la part de Jésus, notre Seigneur, qui finalement, sans que ça soit un privilège qui empêche d'aller au ciel, nous donne la grâce de pouvoir connaître le pays dans lequel il a vécu. Et c'est donc quelque chose de très beau, mais quelque chose qui vient en son temps. C'est-à-dire que pour des personnes, ça peut être à 10 ans, d'autres à 20 ans, et d'autres même à 60 ans, sur le tard. Et comme une grâce de découvrir donc le pays où lequel Jésus a vécu. Et donc ça veut dire que ça nous permet aussi de mieux comprendre les évangiles, d'avoir des images dans la tête quand on lit certaines pages d'évangiles qui sont bien situées, d'autres moins bien, donc toutes les pages d'évangiles ne sont pas situées, mais ça permet d'avoir donc une compréhension peut-être plus fine des Écritures, enfin du Nouveau Testament et en particulier des évangiles et de la vie donc tout ce qui a conduit Jésus à mourir sur une croix et après donc dans sa résurrection. Au bout de 3 jours.
Ça permet aussi de s'approcher de cette figure humaine qui est celle du Christ.
Oui, c'est-à-dire que oui, tout à fait. On voit les endroits où, par exemple, Béthanie, on va sans doute en parler aujourd'hui, donc puisque c'est un lieu très important, oui, Béthanie, c'est un endroit où Jésus a fréquenté des amis, Jésus a forcément marché entre Béthanie et Jérusalem. Donc ça veut dire qu'en montant le Mont des Oliviers, eh bien, on est certain ou quasi certain que Jésus a emprunté ce chemin, même s'il y en a 2 ou 3 qui permettent de monter sur les monts des Oliviers ou d'arriver à Béthanie. Mais quoi qu'il en soit, on peut parier sur le fait que Jésus les a pris tous les trois. Et donc, en fait, voilà, c'est une proximité qui nous permet de mieux comprendre aussi, donc, comme je viens de le dire, les pages d'Évangile et notamment l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux.
Alors, nous n'avons pas tous l'opportunité de nous rendre en Terre Sainte. Vous allez être notre guide aujourd'hui, frère Dominique Marie.
Je vais essayer.
J'ai bien confiance. Alors, on va commencer par Gethsémani. C'est là que la passion de Jésus commence. Nous avons ce passage d'Évangile, de l'agonie de Jésus dans ce lieu. Frère Dominique Marie, est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu tel qu'il était au temps de Jésus ?
Alors, c'est un lieu à la fois de passage et à la fois assez sauvage. Alors, Gethsémani, en araméen, ça veut dire pressoir à huile. Et de passage, parce qu'en fait, c'est tout à côté d'une route forcée qu'il y avait entre la vieille ville, enfin, ou la ville de Jérusalem de l'époque, avec une porte qui était pas très loin. Et quand on sortait de cette porte, eh bien, on descendait dans la vallée du Cédron et il y avait un passage qui, en fait, s'est révélé le passage qui existe depuis très longtemps, un temps immémorial, qui permettait après de remonter sur le Mont des Oliviers. Et Gethsémani est juste à côté de ce passage qui permet donc finalement d'avoir le chemin le plus rapide pour aller sur le Mont des Oliviers. Et c'était un pressoir, donc son nom l'indique, pressoir à huile. Alors il y avait donc beaucoup d'oliviers, beaucoup plus qu'actuellement. Il y en a un petit résidu, il date pas de l'époque de Jésus, mais donc il y a donc à Gethsémani une grotte où on vénère l'endroit où Jésus avec ses disciples avait choisi de dormir, de se cacher, hein, puisque c'était une cachette, et aussi un endroit où il fallait dormir. Alors on dormait pas forcément à la Belle Étoile parce qu'il faisait pas encore suffisamment chaud à Jérusalem, mais il fallait donc avoir un endroit où on puisse dormir, et donc ce qui implique que Jésus, donc au cours de cette dernière journée, donc où il a particulièrement souffert déjà en avance pour nous, eh bien, il puisse donc vivre ce moment donc très important, hein, peut-être aussi important que la mort sur la croix, où Jésus finalement a accepté de mourir pour nous, par amour pour nous, en voyant tout ce qui allait lui arriver, et en ayant cette phrase donc que nous connaissons bien, « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, et non pas ma volonté, mais ta volonté ». Aussi, c'est un, spirituellement parlant, c'est un très bel endroit où on peut, où il y a une belle basilique d'ailleurs, qui a été construite au XXe siècle, qui a un aspect très sombre et qui permet aussi de méditer sur ces heures où Jésus, par amour, a accepté librement sa passion. C'est quelque chose de très grand.
Vous avez parlé, frère Dominique Marie, de la grotte. Alors, on l'appelle, si mes sources sont bonnes, la grotte de l'arrestation ou la grotte de la trahison. Elle est vraiment le témoin de cet événement qui est rapporté par saint Matthieu, qui écrit « Une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple, est conduite par Judas. » Donc c'est...
Oui, alors si on suit les pères de l'Église, il y a quelques discordances à ce propos-là, mais peu importe. C'est-à-dire que de toute façon, Gethsémani est quand même un endroit authentifié. C'est-à-dire qu'on est prisonnier pour l'authentification des lieux saints, pour une bonne part, de ce que nous ont dit les premiers chrétiens de Jérusalem et ce que nous dit la tradition byzantine, donc à l'époque où l'empereur Constantin a autorisé la religion chrétienne et où des églises ont été construites. Et on voit que dès le IVe siècle, Gethsémani était un endroit de pèlerinage, donc avec notamment la pèlerine Égérie, qui était sans doute une Espagnole ou même peut-être quelqu'un qui venait de Bordeaux ou du sud de la France, en tout cas, actuelle, et qui donc montre qu'on s'arrêtait à Gethsémani pour vénérer justement les heures les plus sombres de la passion de Jésus. Donc en fait, on est prisonnier de ça, mais il faut comprendre que les chrétiens ont habité Jérusalem sans interruption, même malgré les vicissitudes, malgré la prise de Jérusalem par les Romains, malgré la destruction du Temple en 70, malgré la deuxième révolte juive en 130-135. Donc en fait, les chrétiens a priori ont toujours habité la ville. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'ils aient forcément inventé tout. Voilà. Et on est quand même prisonnier de cela, mais ceci dit, donc la tradition est unanime pour Gethsémani. La grotte qui est à côté, où la tradition est moins unanime, elle est en effet à deux jets de pierre, comme il est dit dans les évangiles. Donc pourquoi pas, et en tout cas c'est un lieu qui est tout à fait convenable pour passer la nuit. Je vous rappelle que lors de la Pâque, il y avait énormément de monde à Jérusalem, trop pour la ville. Et que donc il n'y avait pas des hôtels comme aujourd'hui et qu'il fallait donc se débrouiller pour trouver un endroit pour dormir. Et comme je le disais, Jérusalem, je connais suffisamment pour savoir que c'est quand même à 800 mètres d'altitude, 700-800 mètres d'altitude.
Les nuits sont fraîches.
Et donc les nuits peuvent être fraîches, même encore donc à la période de Pâques. Même si donc le temps est quand même clément, mais il peut neiger à Jérusalem, hein. Donc pas à Pâques, mais quoi qu'il en soit, donc ça veut dire que la protection d'une grotte est évidemment bienvenue.
Eh oui, bien sûr. Vous avez parlé, frère Dominique Marie, de cette agonie qui est un moment aussi important que la crucifixion. C'est vrai que Jésus y ressent frayeur et angoisse. L'évangéliste Luc précise que sa sueur devint comme des gouttes de sang. La pierre qui aurait recueilli ses larmes de sang, il est particulièrement vénéré. Est-ce que là aussi, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur ce...
Alors en fait, oui, c'est-à-dire que l'Église d'aujourd'hui, qui s'appelle l'Église des Nations, qui est souvent prise en photo avec une mosaïque là sur le fronton, englobe en son cœur, donc devant l'autel, il y a une pierre qui est vénérée comme... le lieu où Jésus donc a pleuré, enfin a souffert ce moment-là, donc et donc à perler du sang, etc. Et en fait, si on en tient, parce que cette église a été détruite, hein, donc on peut entrer dans le détail, mais en 614 par les Perses, etc. Mmh. Et en fait, elle a été reconstruite à l'époque des croisades, et l'époque des croisades, elle a été reconstruite dans un axe qui n'est pas tout à fait le même, et où la pierre vénérée dans le chœur était celle d'à côté, si j'ose dire, donc environ 5 ou 10 mètres. Bon, peu importe. Comment dire, c'est pas pour ça que c'est pas l'authentique lieu, c'est pas pour ça que, enfin, en tout cas, l'authentique lieu vénéré par les Byzantins et qui vient de la tradition. Donc, en fait, pour moi, il s'agit pas de toucher la pierre. Il faut pas être une expression que j'utilise régulièrement. Il faut pas être plus royaliste que le roi au sens où. C'est peut-être pas cette pierre-là, mais si c'est pas cette pierre, c'est la pierre d'à côté. Et de toute façon, ce qui est important, c'est que ce qu'on voit nous permet de mieux entrer dans ce que nous disent les évangiles et de revivre et de s'unir donc dans la foi, dans un acte d'amour, à ce que Jésus a vécu pour nous. Si Jésus n'avait pas vécu ce moment-là, eh bien, nous ne serions pas sauvés.
Et si on se transpose justement sur ce lieu, on imagine que vous êtes notre guide, qu'est-ce que vous nous feriez vivre à cet endroit-là, de l'agonie de Jésus à Gethsémani?
Je relirais l'évangile dont vous avez fait mention tout à l'heure. Et ensuite, dans cette église qui est assez sombre, hein, parce que donc il y a des fenêtres d'albâtre et ils ont fait exprès, et je trouve qu'elle est assez réussie. Il faut y passer un moment en prière. Il faut y passer un moment en silence. Il faut y passer un moment à genoux. Il faut se considérer le moment où, j'ai péché. Et puisque j'ai péché, si Jésus n'avait pas accepté à cet endroit de souffrir pour moi sa passion, eh bien, je ne pourrais pas prétendre au royaume des cieux. Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi important d'une certaine manière que la mort sur la croix, même si la mort sur la croix, c'est la souffrance ultime, la souffrance la plus grande. Mais là, il y a une souffrance morale et puis surtout une injustice qui va lui être faite. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est évidemment poignant. Et c'est aussi une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les trois jours saints n'en font qu'un, d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit dans la messe. Donc, c'est pour ça aussi que ce jour-là, justement, il y a eu l'institution de la messe, l'Eucharistie, dans les heures qui précédaient. Et que la messe, c'est une réactualisation des trois jours saints. De la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est dans cela donc qu'il faut savoir se taire. Et c'est d'ailleurs pour ça que, on peut y venir le vendredi saint, mais quand on habite Jérusalem, on peut avoir cette grâce, justement, on peut aller au Saint-Sépulcre, évidemment, de venir donc à Gethsémani, c'est un bel endroit, c'est un beau moment, c'est aussi un moment de recueillement, pour pouvoir entrer davantage dans ce mystère. Avec aussi le fait qu'il y a des beaux oliviers, donc, mais même si les oliviers, très vieux, mais qui datent du Moyen-Âge, il n'y en a aucun qui date de l'époque de Jésus.
Oui, voilà. Est-ce que on pourrait faire un lien avec, puisque vous disiez que Gethsémani, ça voulait dire pressoir à huile, est-ce qu'on pourrait faire une digression en se disant, Jésus a été pressé comme les olives dans un pressoir?
Oui, évidemment. Je pense que ça a dû être fait par les pères de l'Église, ça. Évidemment, le pressoir, Gethsémani, de toute façon, il y avait plein d'oliviers sur cette colline, donc il en reste, hein, comme je disais. Oui, tout à fait, Jésus a été pressé dans son être, dans son humanité, d'avoir à subir ce châtiment infâme, hein, cette souffrance et ce châtiment infâme qui était la mort sur la croix. Et je vous rappelle que c'était réservé aux esclaves et que le but de cette crucifixion était de faire souffrir la personne au maximum en faisant en sorte que le supplice dure au maximum, puisque donc la personne mourait étouffée à force de ne plus pouvoir respirer.
Alors c'est frappant de constater le nombre de jardins qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a le jardin d'Éden, celui du Cantique des Cantiques, et puis là, c'est celui de Gethsémani. En quoi il diffère des autres jardins ?
Alors, jardin, oui, c'est un lieu clos, un lieu clos qui dénote, en effet, si on prend ce thème à travers la Bible, qui dénote quelque chose qui se passe, quelque chose d'important qui se passe. Jardin d'Éden, la période donc de justice donc du début, ce jardin des Gethsémani, qui des oliviers, qui va donc être le commencement de notre rédemption, et puis donc évidemment aussi le jardin dans lequel se retrouve la tombe de Jésus. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Et donc tout ça, évidemment, il y a un lieu clos et qui peut même faire peut-être référence au Cantique des Cantiques, hein, donc du Seigneur qui nous cherche et veut nous trouver. Évidemment, il y a cette figure aussi de Marie-Madeleine qui court au jardin pour retrouver Jésus, et qui est Jésus qui ça c'est la résurrection. Donc on n'est pas encore à Gethsémani. Mais il y a une chose, enfin, je ne sais pas si vous avez l'intention qu'on en parle, mais donc pas loin de Gethsémani, il y a aussi un lieu important, assez important, mais c'est vrai qu'il faut avoir vécu à Jérusalem pour le comprendre peut-être davantage. C'est la tombe de Marie.
Parlons-en maintenant, si vous voulez.
Alors la tombe de Marie, parce que donc Marie était sans doute peut-être, avec les disciples. Enfin bon, ça on n'en a pas la certitude, mais quoi qu'il en soit. Marie, donc selon la tradition de Jérusalem, donc même si ça ne va pas à l'encontre des gens qui disent qu'elle est allée donc à Éphèse et qu'éventuellement elle avait une maison à Éphèse, mais selon la tradition de Jérusalem, la Vierge Marie, donc selon un texte qui date du 2e-3e siècle, qui s'appelle le Transitus Mariae, eh bien la Vierge Marie a souhaité mourir, passer dans l'autre monde, dans la ville où son fils avait connu cela. Et donc selon la tradition de Jérusalem, donc ça ne va pas à l'encontre du dogme de l'Assomption, eh bien la Vierge Marie est vraiment morte comme son fils, et selon la tradition elle est morte au Mont Sion, donc c'est un autre endroit de Jérusalem, et on l'a mise au tombeau à côté de Gethsémani, donc dans un tombeau qui est aujourd'hui vénéré dans une église qui s'appelle la tombe de Marie, qui est une église aussi byzantine, et donc qui est à côté de Gethsémani. Et je trouve que ça fait un ensemble au sens où certes, elle n'est pas enterrée, elle n'a pas été enterrée au même endroit que son fils, hein, mais en tout cas, elle a voulu finalement être unie, si la tradition de Jérusalem est juste, elle a voulu vivre, être unie finalement à son fils et être le plus proche de son fils dans cette ville finalement, qui est importante et qui a joué un rôle important dans l'histoire du salut.
Une bonne découverte. En tout cas, je vous propose de faire une pause musicale, et puis nous allons parler du Mont des Oliviers et de la vallée du Cédron. Je vous propose d'écouter le début de la Passion selon Saint Matthieu, de Jean-Sébastien Bach, évidemment.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Les lieux saints de la Passion de Jésus, ce sont ceux que nous vous proposons de parcourir pendant ce temps de carême. Nous sommes avec le frère Dominique Marie Cabaret, dominicain et archéologue. Vous êtes de retour à Toulouse après 10 années passées à Jérusalem. Vous nous avez introduit à Gethsémanie. Vous nous avez parlé de cette tombe, ce lieu où est vénérée la Vierge Marie dans sa mort. On sait évidemment que son corps n'y est pas puisque elle est montée au ciel dans son Assomption. On va pénétrer maintenant dans ce mot des Oliviers et vous vouliez peut-être commencer par nous parler d'Égérie.
Oui, alors Égérie est quelqu'un d'important parce qu'en fait ça nous permet de connaître la liturgie des premiers chrétiens, donc au 4e siècle. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que Constantin donc a reconnu la religion chrétienne au début du 4e siècle. Et dès les années 380 environ, on a quelques doutes sur la date exacte, hein, bon, peu importe, on n'est pas à 10 ans près, Égérie, cette pèlerine, qui était un personnage assez important parce qu'elle était reçue par des évêques, et puis voilà, nous a laissé des récits de la liturgie pascale de cette époque-là. Et donc, c'est une liturgie stationnelle, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, on revit la Passion au lieu où ça s'est passé. Donc, les trois jours saints, c'est pas chacun va célébrer les trois jours saints dans sa paroisse, si on peut parler comme ça. C'est que toute l'Église de Jérusalem fait des processions entre l'endroit de la résurrection, monte au Mont des Oliviers pour écouter un texte, et puis après, donc, on se sépare. Mais on revient au Mont des Oliviers et après, donc on va refaire une procession, on va jusqu'à Gethsémanie où on écoute la parole de Dieu, donc où les évangiles concernant cet endroit. Et donc en fait, c'est ça qui nous permet aussi de savoir ce qui s'est passé dans la vallée du Cédron et au Mont des Oliviers, dans la tradition chrétienne, et avec aussi cette construction, donc ces constructions qui ont été ordonnées, donc à la fois par Constantin et aussi après par les autres empereurs plus tard, ou donc éventuellement ce sont des riches romains, enfin des riches de Jérusalem ou d'ailleurs de patriciennes romaines qui ont payé donc sur leur denier les églises en question, mais qui vont se construire petit à petit aux lieux importants. Et c'est comme ça hein, qu'on sait que Gethsémanie va devenir un endroit qu'on vénère. Donc même déjà à l'époque de Géry, même si on n'est pas certain que l'église dont je vous parlais tout à l'heure est de l'époque de Géry. Donc il y a évidemment des questions aussi archéologiques qui se jouent. Et il y avait une église aussi sur le sommet du Mont des Oliviers qu'on appelle l'Éléona. Donc qui est une, comme son nom l'indique, l'Éléona, c'est l'huile. Donc c'est l'Oliveraie, l'église de l'Oliveraie qui avait donc été construite par Constantin lui-même. Donc on parle de grotte, hein, vous voyez, il y a une grotte où, selon la tradition, Jésus a enseigné le pater, mais aussi a fait ses discours eschatologiques. Aujourd'hui, c'est l'endroit où il y a un Carmel. Et donc, selon la tradition, Constantin, avec l'aide de sa mère, a fait construire 3 églises principales. Donc en Terre Sainte, celle sur la mort et la résurrection de Jésus, sur le tombeau, celle de Bethléem, une grotte aussi, hein. Le tombeau c'est une sorte de grotte aussi, et celle aussi sur le Mont des Oliviers, où il y avait une grotte aussi, donc où on vénérait cet endroit où Jésus aurait enseigné. Et puis à côté de cette église, donc qui est sur le Mont des Oliviers, il y a donc un autre endroit que donc on sait par Égérie qui s'appelait Libonum. Alors Libonum ça veut dire la hauteur en grec, et cet endroit-là c'était donc le lieu où on vénérait l'Ascension de Jésus. Et on sait par Saint Jérôme aussi que, enfin, il y avait même éventuellement des traces de pas. Donc aujourd'hui encore, tout ça s'est transformé en mosquée. Il y a un endroit on peut, avec une certaine imagination, voir une trace de pas. Donc sur le sommet même du Mont des Oliviers, hein, l'église l'Éléona est construite un peu à l'écart. Donc aujourd'hui, c'est un lieu d'ailleurs qui est territoire français parce que donc la princesse de la Tour d'Auvergne a acheté ce terrain au XIXe siècle pour en faire un carmel. et l'a donné à la France, même si le Carmel aujourd'hui n'est pas la France, mais l'autre terrain est à la France. Okay. Voilà, et donc tout ça, ce sont des lieux importants, et la vallée du Cédron, évidemment, est ce lien entre la vieille ville, la ville de Jérusalem, et le Mont des Oliviers. Et Gethsemane, on va dire, c'est un emplacement qui est dans la vallée du Cédron. Mais c'est un fait que les emplacements dont je viens de vous parler sont sur le Mont des Oliviers.
Et en fait, si je comprends bien, le Mont des Oliviers, ça n'est pas seulement le lieu où Jésus aimait se rendre et où il est passé pour son agonie, mais c'est vraiment un lieu où il y a eu énormément d'événements dans sa prédication.
Oui, alors, et puis ça vient aussi du fait, à mon avis, que c'était un peu à l'écart, il y avait une très belle vue sur Jérusalem, donc c'est aussi là qu'on vénère ce qu'on a, l'épisode qu'on par sa phrase latine « Dominus flevit », hein, le Seigneur pleura, il pleura sur la ville, et avec ses, donc devant le, parce que ça domine, hein, on est en face du temple, qui est une des merveilles d'architecture de cette époque-là, un des plus grands temples antiques, et devant lequel les apôtres s'extasient, et il y avait sans doute de quoi s'extasier, quand je dis il y avait sans doute, c'est sûr qu'il y avait de quoi s'extasier devant la beauté de ce monument, de ce complexe, et Jésus de pleurer, bon ben voilà, enfin... J'ai tant voulu rassembler mes enfants, enfin, comme une poule avec ses enfants, enfin avec ses
une mère avec ses poussins.
Ses poussins et que n'as-tu pas à écouter ? Et puis il va t'arriver malheur et il restera pas pierre sur pierre. Et au grand scandale d'ailleurs des disciples en disant qu'est-ce que c'est que ce que tu racontes ? Et en plus c'était le lieu où Jésus passait régulièrement, donc le Mont des Oliviers, la vallée du Cédron, le Mont des Oliviers, pour aller à Béthanie. Où il avait l'évangile.
Alors c'est
de
Lazare
Jean.
Et Marthe et Marie, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ses amis. Et donc où d'ailleurs il devait dormir régulièrement. Et l'avantage de ce lieu-là, c'était que c'était à une distance qui ne dépassait pas ce qui était permis le jour du sabbat. Donc ça veut dire qu'en fait, ça permettait de tout en habitant pas Jérusalem d'être plus au calme.
Donc c'était une distance de combien d'heures de marche?
2,8 kilomètres environ.
Oui, donc Béthanie. Ça fait une grosse demi-heure de marche si on marche.
Oui, voilà. Alors c'est un lieu aujourd'hui où le dimanche des Rameaux, il y a une procession hein, qui. Alors ça part pas de Béthanie, ça part d'un autre endroit qui s'appelle Bethphagé, où il y a une pierre qui est vénérée comme étant alors l'endroit où Jésus se serait servi de cette pierre pour monter sur son âne.
Ah.
Bon. Donc là, est-ce que la pierre est authentique ? Ouais. Ce qui est certain, c'est que c'est un lieu qui est vénéré depuis, en tout cas, les croisades, comme le lieu où on commençait la procession, et où encore aujourd'hui, donc pour le dimanche des Rameaux, il y a une grande procession assez populaire, qui réunit des milliers de gens, et qui donc part de cet endroit-là, qui est environ 2 kilomètres de la ville, et donc chemine vers le Mont des Oliviers, passe à côté de l'Eléona, donc cette église qui est aujourd'hui en ruine, hein, à côté du Carmel, et donc descend les pentes du Mont des Oliviers, passe à Gethsemane, remonte, passe donc dans le fond de la vallée du Cédron et après remonte vers la vieille ville pour entrer dans la vieille ville et donc tout ça avec le Saint-Sacrement et ça s'arrête donc aujourd'hui dans le domaine Sainte-Anne où il y a une très belle église aussi croisée qui appartient au Père Blanc et donc là il y a un salut du Saint-Sacrement. Donc l'évêque de Jérusalem donc porte le Saint-Sacrement depuis Bethphagé jusqu'à il monte pas sur un âne, évidemment, mais il porte le Saint-Sacrement depuis Bethphagé, donc environ 2 kilomètres, jusque à Sainte-Anne, le dimanche des Rameaux.
D'accord. Est-ce que vous pourriez, frère Dominique-Marie Cabaret, nous parler de cette vallée du Cédron, qui est donc un lieu de passage, hein, on a bien compris.
Oui, alors cette vallée du Cédron est un lieu important, parce que si on rejoint donc la vision d'Ézéchiel ou de choses comme ça, c'est aussi un endroit d'où l'eau a jailli du temple, et puis donc elle coule, et elle va se jeter dans la mer Morte. Et c'est donc la vallée principale de Jérusalem. Alors il y en a deux autres, la vallée du Tyropéon, la vallée de la Géhenne, hein, donc on connaît aussi le nom. Mais cette vallée donc est celle qui passe donc à l'est de la ville de Jérusalem et qui donc a toute cette symbolique aussi donc comme avec la vision d'Ézéchiel de celle qui va apporter la vie hein, puisque donc il y a des arbres qui poussent etc grâce à son eau etc mais il faut bien comprendre aussi que c'est une vallée la rivière n'est pas permanente, hein, parce qu'il ne pleut pas suffisamment à Jérusalem pour que pendant les périodes sèches, il y ait de l'eau qui coule dans cette vallée. Et c'est un lieu important parce que donc il y a aussi la seule source pérenne de Jérusalem qui surgit dans cette vallée du Cédron, et qui a été détournée, qui va alimenter la piscine de Siloé. La piscine de Siloé, on va dire, elle est dans cette vallée du Cédron. Hein.
Elle n'est pas dans Jérusalem même. Alors.
Non, elle est au sud de la vieille ville, enfin au sud de la ville de l'époque de Jésus. Enfin voilà, et donc ça serait bon. On va pas parler des remparts maintenant, mais en tout cas, elle est au sud parce que évidemment l'eau descend et donc il n'y avait pas de pompe à l'époque et donc en fait, il était beaucoup plus simple de la faire couler par rapport et de la récupérer dans un grand bassin qu'on appelle une piscine, la piscine de Siloé. Et où les gens pouvaient venir se laver, puiser de l'eau, etc. Et évidemment, elle est en bas, mais elle est tout à côté de la vallée du Cédron. Et aujourd'hui, dans cette vallée du Cédron, si on la descend, ben elle passe dans le désert de Judée. Et il y a d'ailleurs un grand monastère grec orthodoxe, qui est celui de Marsaba, qui est tout à côté de la vallée du Cédron. Enfin, qui domine la vallée du Cédron, même plus exactement, à quelques vingtaines de mètres, et qui donc est un, vous voyez, qui montre que tout ce secteur a été habité, voilà. Et donc c'est quelque chose d'important, ne serait-ce que parce que aussi c'est un lieu qui est vraiment cité dans les derniers jours de la Passion.
Et Jésus, est-ce qu'il y a d'autres moments hors de la Passion justement où Jésus a pris cette vallée du Cédron
Ah oui, forcément, ouais, parce que Jésus a forcément, enfin, il l'a pris. Au moins, il est passé. Mais il est passé et enfin, c'est que je l'ai dit au début, il y a plusieurs chemins pour aller à Béthanie.
C'est-à-dire que vous disiez qu'il y en avait trois.
Bah oui, il y a un chemin qui consiste à remonter sur le mont des Oliviers, mais c'est quand même, ça domine environ d'une centaine de mètres. Donc, quand il fait très très chaud en été, ben c'est une bonne suée, et même pas forcément en été. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir envie de suivre la courbe de niveau.
On contourne. Ouais.
La courbe de niveau. Et donc, si on suit la courbe de niveau, dans ce cas-là, on longe la vallée du Cédron sans plus être dans le fond, parce que sinon on descendrait. Mais on longe la vallée du Cédron vers ce qu'on appelle le mont du Scandale aujourd'hui, où il y a la maison d'Abraham, donc qui est tenue par le Secours catholique et qui donc dans la tradition de l'Ancien Testament était le lieu où Salomon avait fait construire, permis à ses femmes de bâtir des autels à leur dieu. Donc le mont du Scandale. Bref, et quoi qu'il en soit, donc par ce biais-là, et c'est d'ailleurs la route qui menait à Jéricho. Et la route, parce qu'il faut bien savoir que quand il y avait des chars ou des choses comme ça, eh bien on évitait de faire trop de déclivités et trop de pentes très fortes. Donc il y avait plusieurs routes. Il y en a une autre un peu plus au nord, j'entre pas dans le détail, mais une des routes en tout cas qui pouvait passer à Béthanie, il y avait un chemin qui permettait, en suivant la courbe de niveau, et donc on peut penser aussi que Jésus a pris ce chemin. Et donc dans ces cas-là, il passait quasiment dans la vallée du Cédron, où il y a des tombes.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que en fait, cette vallée du Cédron, elle est mentionnée plusieurs fois dans l'Ancien Testament.
Oui, alors elle est mentionnée plusieurs fois, et puis elle a été étudiée, c'est-à-dire que c'est une nécropole. C'est naturel, donc puisque c'était hors de la ville, on ne pouvait enterrer que hors de la ville. Et donc en fait, il y a plusieurs tombes assez connues qui sont prises en photo régulièrement, notamment donc ce qu'on appelle une tolos ou une néfèche, donc avec ce cône qui est sur ce sommet qui est typique d'une tombe juive. Elle est attribuée à Absalom, mais j'entre pas dans le détail, ça serait trop long. Il y a autant d'attributions que d'auteurs ou presque qui en parle, et il y a aussi des tombes de prêtres qui datent donc de Bénézir, qui datent donc de l'époque asmonéenne, donc avant Jésus, qui sont un peu plus bas, et donc encore on va jusque donc au village de Siloé. Là aussi il y a d'autres tombes donc qui sont antiques, et d'autres tombes il y avait plein de tombes, et évidemment c'est un lieu aussi de cimetière juif pour les juifs, puisque selon la tradition juive c'est à l'Orient que le Messie viendra.
Ah oui, voilà,
donc
c'est ça. Les tombes sont tournées vers l'Orient.
On va être enterré du côté où, pour eux, le Messie n'est pas encore arrivé. Et donc, où le Messie viendra.
Il y a aussi une difficulté à déterminer où a été martyrisé Saint-Étienne. Certains disent que ça pourrait être au nord de Jérusalem, près de la porte de Damas, et d'autres disent que justement, ce serait à l'est, entre les remparts de Gethsémani et la vallée du Cédron.
Oui, alors là, vous touchez une question que j'ai particulièrement étudiée.
Ah, alors.
Il y a pas longtemps. Il n'y a pas besoin de 10 minutes. Il y a une tradition, mais qui est dans la vallée du Cédron, mais je pense, et avec quelques petites bonnes raisons que j'ai pas forcément le temps d'expliquer ici, que ce n'est pas l'endroit où les Byzantins ont vénéré le martyr de Saint-Étienne, et cet endroit est au nord de la ville, sur le lieu actuel du couvent des Dominicains. Oui. Alors, c'est pas parce que je suis dominicain que je dis ça.
L'école biblique,
et qui donc a été, où une église byzantine a été construite par l'empératrice Eudocie, donc au 5e siècle, sur le lieu traditionnel du martyr. Oui. Et évidemment, enfin, aujourd'hui, en effet, les Grecs orthodoxes et les franciscains prétendent que c'est dans la vallée du Cédron. Mais les franciscains vénèrent cet emplacement depuis les croisades, depuis le royaume latin, c'est-à-dire après leur retour. Et ils les vénèrent à la suite de ce que leur ont dit les Grecs orthodoxes au moment où ils sont revenus en Terre Sainte. D'accord. Et les sources historiques, donc avec le fait que les reliques de Saint-Étienne ont été retrouvées au début du 5e siècle, avec des textes qui, donc il y a des études qui ont montré que ce lieu a été vénéré comme le lieu authentique, le lieu au nord de la ville, hein, pas celui du Cédron, comme le lieu authentique du martyr de Saint-Étienne, donc dès avant qu'on retrouve les reliques.
Ah oui.
Donc à 425. D'accord. Donc c'est pas les reliques qui ont fait que les reliques retrouvées en 425 qui ont fait que c'est au nord de la ville qu'on a commencé à vénérer. D'accord. Non, les textes le montrent, et il y a un universitaire français, dont je peux citer le nom si vous voulez, qui a fait une étude critique des textes et qui le dit, hein, explicitement.
Donc, le martyr
donc,
de
mais il est un fait qu'aujourd'hui, les franciscains vont vénérer le martyr de Saint-Étienne dans la vallée du Cédron le 26 décembre.
D'accord.
Ce qui est, à mon avis, donc pas la tradition
pas
la
juste.
Plus ancienne.
Oui, c'est ça. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour que vous nous ameniez, frère Dominique Marie Cabaret, sur le Mont Sion et au Cénacle.
Oui.
Et je vous remercie en tout cas de nous avoir conduits ce matin à travers Gethsémani, le Mont des Oliviers et la vallée du Cédron.
Il n'y a pas de quoi, merci aussi.
C'était votre émission.
À bientôt, à la semaine prochaine.
Voilà, à la semaine prochaine. C'était votre émission Vivante Église, merci de l'avoir suivie.